Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Paul Darmon qui nous parle de son roman Robert De Niro, Le Mossad et moi qui vient de paraître aux éditions L'Antilope. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Alors j'aimerais beaucoup qu'à travers cette interview, les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom se rendent compte de votre personnalité épicée, éclatante, rieuse et tout simplement truculente parce qu'elle ressemble à votre écriture. Avec vous, il doit être difficile de s'ennuyer comme à la lecture de votre roman qui nous vaut votre venue aujourd'hui. Pour vous présenter, on peut dire quelques mots, en quelques mots, que vous êtes écrivaine, hein, vous m'interrompez si je me trompe, scénariste, journaliste, que vous êtes née à Casablanca, que vous vivez actuellement à Buenos Aires, où vous écrivez toujours, peignez et dansez le tango. Et vous nous avez raconté, on a fait un petit événement hein, auprès de l'Antilope, et vous nous avez raconté pourquoi vous avez choisi l'Argentine, parce que cela vous rappelle le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous redire cette petite anecdote?
Ah, alors, je ne sais pas par où commencer. Je suis arrivée en Argentine sans m'intéresser véritablement à l'Argentine par un concours de circonstances. Et pour moi, l'Argentine, c'était l'Europe en Amérique latine. Et je suis arrivée chez une dame qui me louait une chambre dans un quartier extrêmement agréable qui est celui de Palermo Chico. Et j'ai commencé à tourner dans le quartier et 3 jours après, j'ai dit « c'est ici que je veux vivre ». Et j'ai tout fait pour... Et l'année d'après,
Je voulais que vous nous racontiez autre chose pour qu'on puisse se rendre compte de votre manière de raconter les choses. Est-ce que vous n'avez pas croisé un jeune serveur, un enfant qui traversait la rue avec un plateau?
Mais c'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai fait une bascule formidable dans ma vie. Et puis, je me suis beaucoup demandé, pendant longtemps, qu'est-ce qui m'avait attrapé dans Buenos Aires pour que je prenne une décision aussi drastique et aussi rapide, et en plus que j'agisse immédiatement après. Et je trouvais pas. Et un jour, dans la rue, je vois un petit Bolivien avec un plateau qui transportait du café pour aller chez le coiffeur. Et là, je me suis dit, voilà. C'est Casablanca.
Et donc, vous êtes resté depuis. Et votre actualité, c'est donc la parution de ce roman, Robert De Niro, Le Mossad et moi, aux éditions de l'Antilope. Et on comprend bien dès le titre sur quel chemin vous allez emporter le lecteur dans un road trip improbable où il sera question de Robert De Niro, du Mossad et surtout de vous. En l'occurrence, votre double littéraire, qui est la scénariste Dora Bessis, qui est prête à tout, vraiment à tout, pour monter un film sur l'espion israélien du Mossad, Eli Cohen. Né en Égypte, Eli Cohen a infiltré les plus hautes sphères du pouvoir syrien dans les années 60. Il est considéré comme un héros par les Israéliens et les Juifs du monde entier. Et le long métrage s'appellera Le Loup de Damas. Et pour Dora, il n'y a aucun doute que Robert De Niro himself fera un Eli Cohen magistral dans le rôle du film. Mais voilà que rien ne se passe comme prévu, et c'est tant mieux. Nous sommes à la fin des années 80, alors que l'écriture du film se déroule en 1957, et le lecteur suit ce double récit avec, d'un côté, l'histoire haletante de l'espion Eli Cohen, et de l'autre, celle non moins trépidante et tellement drôle et rafraîchissante de Dora Bessis. Et on adore. Et pourquoi on adore? Parce qu'on ne s'ennuie pas un instant, parce que c'est complètement improbable, et parce que ça fait du bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Paul, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre?
Ah ben ça, c'est... Je ne sais pas. ça s'est produit après de longues années, parce que cette expérience... Enfin, pas complètement, parce que j'y ai mis mon grain de sel imaginaire, mais quand même, je l'ai vécu, et en 1987. Pourquoi Robert De Niro? Parce que d'abord, quand on est scénariste, quand on essaye d'écrire, de faire un film, alors on va directement au plus grand, quoi, quand même. Il ne s'agit pas d'aller chercher le copain de la copine qui fait du cinéma, ou... Non, on va chercher la star, ça caresse l'ego, et on s'imagine déjà arriver au fait d'Hollywood. Bon, donc en 1987, Robert De Niro, c'est la star absolue, c'est un immense acteur, et à vrai dire, je le trouvais assez ressemblant à la photo de classique d'Eli Cohen. Eli Cohen, dans cette photo, il est jeune, mais quand même, il a une moustache, donc il est déjà en Israël et il travaille déjà pour le Mossad. Et il a un visage agréable et assez doux, en fait. Et Robert De Niro, c'est un type qui a un visage assez doux. En 1987, il a une quarantaine d'années, donc ça peut tout à fait coller. Et puis vous lui mettez une moustache, vous lui mettez un peu de cheveux qui est rebelle, et en avant la musique, il sera parfait.
Et donc c'est pour ça que le récit se passe en 1987, alors que dans le film Dora Bessis écrit, on est dans les années, les années 50.
Bien sûr, parce qu'elle suit quand même la réalité de cette histoire. Elle écrit un film sur Eli Cohen qui débarque en Israël en février 1957.
Est-ce que ça vous convient si on dit que Dora Bessis est votre double littéraire ?
Oh ben, je pense que c'est assez évident.
C'est qu'il y a beaucoup de vous chez elle.
Oui, absolument.
Alors, cette histoire de l'espion Eli Cohen est bien documentée dans des films, dans des livres et dans votre livre aussi. Et en vous lisant, eh bien, on se dit que peut-être on est passé à côté de quelque chose et qu'il n'était pas ce héros ou cet espion qu'on a voulu nous servir. Est-ce que vous vous êtes documenté sur Eli Cohen et tout ce qu'on dit sur lui est vrai ?
Mais à vrai dire, Eli Cohen, il y a plusieurs images qui sont données. En tout cas, il y a la version officielle qui est celle du Mossad, qui est celle que tout le monde peut
d'un
lire
héros incontesté,
n'importe où. C'est,
oui.
C'est un héros incontesté. Maintenant, quand on étudie, quand on voit un peu et qu'on s'approche d'un peu plus près de cette histoire et de son action, surtout quand on arrive à la fin de sa mission, c'est-à-dire à l'avant-dernier voyage et au dernier voyage, et on peut se poser des questions. Et on peut se poser des questions sur le rôle du Mossad, véritablement dans cette histoire, parce que quand même, il a agi de façon totalement bizarre, inconséquente, pour un type aussi, aussi réaliste dans son travail. Et il savait très bien les risques qu'il encourait. Alors, la dernière mission, quand il est arrivé pour la dernière fois à Damas, il s'est mis à... C'est de la folie furieuse. Il s'est mis à transmettre tous les jours, à 8h30, sur la même longueur d'onde, sans changer de fréquence, et en plus des 10, 15, 20 minutes, quasiment, sans s'arrêter. Alors, au Mossad, ils disaient « il est fou », mais enfin, ils étaient bien contents d'emmagasiner les informations. Donc, on peut se demander quand même qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'il agisse comme ça. Alors, ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses. D'abord, il a été découvert par sa famille. Donc, il était invulnérable. Il se croyait invulnérable, en tout cas au début, et il affirmait qu'il était invulnérable et que personne ne pouvait se douter de son identité réelle. Mais quand même, invulnérable, oui, sa femme l'a découvert, son frère l'a découvert. Et en plus, il y a eu tout un concours de circonstances absolument incroyable. Alors, au niveau des informations, les livres qui ont été écrits sur Eli Cohen sont des livres qui sont des livres de journalistes, qui ont peut-être interviewé sûrement les responsables du Mossad, en tout cas pour Eridan, qui était très bien renseigné. Mais ils nous servent la version officielle. Moi, d'écrire ce que tout le monde écrit, c'est pas très intéressant. Mais je me posais véritablement des questions, et je me posais aussi des questions sur l'individu. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se mettre dans la peau d'un autre, d'une part. Et puis d'autre part, si on réfléchit, Eli Cohen, il était très heureux en Égypte, et puis l'histoire lui a fait un coup horrible. Il a été obligé d'agir, il l'a fait en toute sincérité, bien évidemment. Il arrive en Israël, il parle quasiment pas hébreu, il est très mal adapté. Bon, enfin, il y a sa famille, il se marie, donc en Israël, son milieu, c'est la famille et le Mossad. Il est envoyé en Syrie, il joue le rôle, enfin, il joue et il est ce qu'il est aussi, il est un Syrien en Syrie, et il a un rôle magnifique. C'est un type riche, intelligent, plein de séduction, qui se lie très facilement avec le monde. Et quand il est en Syrie, quand il est à Damas, ben il a une vie extrêmement agréable. Donc finalement, ce qui est intéressant pour moi dans ce personnage, c'est qu'on a ici un juif qui est un juif égyptien qui, pour être juif, devient arabe pendant sa mission. Et ça, c'est assez étonnant.
Et c'est une jolie matière romanesque. Oui. Dans le récit, vous parlez d'une rencontre avec son épouse, qui n'est pas facile. Elle n'a pas une vie facile. Est-ce que vous l'avez rencontrée, vous, pour de vrai, en Israël?
Oui. Je l'ai rencontrée, et je peux dire que la séquence que je décris est quasiment... mot pour mot, celle que j'ai vécue.
Alors, il faut dire que c'est pas une femme facile, hein, et pour cause, elle a vécu quand même une vie un peu compliquée. Elle a élevé ses enfants quasiment toute seule, et qu'elle est très à cheval sur tout ce qui peut paraître autour de son époux.
Absolument, oui. Elle est quand même... c'est elle qui détient l'image et la mémoire de son mari. Alors, elle veut pas qu'on dise n'importe quoi. Et elle se méfie beaucoup des écrivains un peu fous qui vont faire du cinéma avec l'image de son mari.
Si vous aviez pu faire le film, vous l'auriez fait ?
Ah mais oui, j'étais totalement inconsciente. Enfin, c'était de la folie furieuse. L'idée de partir toute seule dans une aventure pareille, sans connaître le milieu, sans avoir d'appui, sans avoir rien du tout... C'est fou.
Et vous voyagez, Dora Bessis nous fait voyager de par le monde, hein, entre la France, Israël, les États-Unis et le Maroc, le pays de votre enfance. Et là, une autre histoire se joue. Il y a un troisième récit dans votre roman. C'est celle d'Isidore, un ami d'enfance de la narratrice, incarcéré, puis juste libéré. Pourquoi vous avez choisi d'intégrer encore un autre récit dans les récits?
Oui, c'est...
Est-ce que Isidore
existait ? Isidore, c'est le pendant négatif d'Eli Cohen. Ils sont, c'est les mêmes mais opposés. Alors quand je dis que une des causes de l'achat de ce livre qui m'a fait redécouvrir, c'est qu'en le feuilletant, il y avait une photo de Amin el-Hafez, qui est devenu le numéro un syrien, qui ressemblait extraordinairement à mon père. Et finalement, dans une photo, c'était deux hommes totalement différents et opposés, qui pour moi en faisaient qu'un. Donc, c'est un peu la même chose pour Isidore et Eli Cohen. Il y a le sincèrement absolu sioniste juif, et l'autre qui est juif du bout des lèvres et qui est férocement anti-sioniste.
Est-ce que ce n'est pas un prétexte aussi, conscient ou inconscient, de parler du Maroc ?
Ah ben oui, ça c'est vrai que le Maroc, je le trimballe partout, alors j'ai du mal à m'en défaire.
Alors il y a un autre prétexte aussi, peut-être pas, c'est Buenos Aires, puisque Eli Cohen a été à Buenos Aires. Est-ce que c'est aussi ça dans la réalité ? Vous en parlez un petit peu dans le livre.
Ah ben oui, il s'est fait une personnalité, il a créé son personnage à Buenos Aires, c'est-à-dire Le personnage a été créé, fictif, a été créé par le Mossad. Et puis, il est arrivé à Buenos Aires, il a fallu l'incarner. Et donc, il s'est mis à infiltrer les milieux syriens avec un grand brio et beaucoup de chance aussi, parce qu'il a pu rencontrer comme ça Amin El Hafez, qui était mis sur la touche à Buenos Aires. On trouvait que c'était un général un peu trop bougeant et qui avait un peu trop d'ambition. Et on l'avait envoyé à Buenos Aires. Et Eli Cohen l'a rencontré et il a très bien su communiquer avec lui sur le plan politique. Parce qu'il s'est immédiatement affiché comme un type du Parti Socialiste, un type du BAS. Alors, il a choisi son camp politique avec intelligence aussi.
Il y a donc, on l'a dit, France, Israël, le Maroc, Buenos Aires, et puis il y a aussi les États-Unis. Et là, oui. Je suis obligée de lire un extrait, on ne peut pas tout dévoiler, mais pour montrer aux auditrices, aux auditeurs, la teneur de votre écriture. Et donc, aux États-Unis, il y a un rendez-vous entre Dora Bessis avec Robert De Niro. Et donc, je vous lis. Coup d'œil à ma montre, il y a tout de même 53 minutes que je fais le poireau dans le pharaonique salon de Robert De Niro. J'ai de plus en plus mal au dos. Il faut que je m'allonge. Je pose précautionneusement mon fondement sur l'élégant fauteuil de cuir dont l'assise me paraît suffisamment ferme, me cale et j'attends comme chez le dentiste. J'aurais dû emporter un bouquin. Mon mal au dos devient lancinant. Je parviens à me remettre debout, incline lentement mon buste vers l'avant pour l'étirer, maintenant l'équerre jambes et bras tendus, les mains en appui sur le dossier d'un fauteuil, le dos bien plat, poussant mon postérieur vers l'arrière pour tirer sur mes vertèbres en levant le menton, comme me l'a conseillé le rouquin d'Amsterdam Avenue. J'inspire et expire lentement dans l'étirement douloureux de toute ma colonne vertébrale quand l'astre du cinéma américain fait irruption dans la pièce. Comme prise en flagrant délit, je me redresse brusquement et m'écroule à ses pieds avec un grand cri. Alors, il faut dire que ce qui précède est très drôle, ce qui suit est très drôle, et que finalement, ce devrait être le moment phare du roman, c'est-à-dire la rencontre avec Robert De Niro pour lui demander d'interpréter Eli Cohen, et rien ne se passe comme prévu. Et ce petit extrait-là, finalement, est un peu une sorte de loupe sur tout le livre. C'est complètement loufoque.
Oui, tout à fait, c'est loufoque, mais tout finalement est loufoque. Et elle part de... Elle part en guerre, si on peut dire, mais elle n'arrive à rien, finalement.
Et le tango, alors? Parce que vous aimez le tango, mais il n'y a quasiment rien sur le tango.
Ben non, mais je dansais pas le tango en 1987.
Pas encore. Alors finalement, d'habitude, on demande qu'est-ce qu'il y a de
vrai. J'aurais pu faire danser le tango à Eli Cohen, pourquoi pas?
Mais oui, ou à Robert De Niro. Et parce qu'on se demande en général est-ce qu'il y a de vrai dans un récit, mais là c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a de faux. Est-ce que vous avez tenté de rencontrer vraiment Robert De Niro en 87?
Mais j'avais des pistes, hein.
C'est vrai.
Oui, j'avais des pistes. Je me suis quand même un peu démenée, mais je l'ai pas rencontré. Mais en écrivant ce roman, à un moment, j'étais là en train de faire tout un foin autour de ce film. Je me suis dit, ben, si elle ne rencontre pas Robert De Niro, ce n'est pas du tout intéressant. Il faut qu'elle le rencontre.
Et puis, elle le rencontre et finalement, c'est une rencontre un peu avortée, encore une fois.
Oui, absolument.
Mais on va pas le dire. Est-ce que quand vous avez pensé au scénario ou pensé au livre, vous aviez un fil conducteur ou est-ce que les choses finissent par s'improviser un petit
non,
peu?
Tout s'est mis en place. De façon presque, j'allais dire, magique. Il faut dire que cette histoire, je l'ai vécue dans les années 80, en 85, 87, je crois. Et j'avais écrit beaucoup. J'avais écrit beaucoup sur le sujet. D'abord, j'avais écrit un synopsis de 70 pages, je me souviens, que j'avais envoyé à Pontecorvo, qui m'avait répondu.
Qu'est-ce qu'il vous avait répondu alors?
Ben, il m'a répondu non. Il m'a dit c'est très très intéressant. Mais
comme dans le livre.
Exactement comme dans le livre. Et puis, où j'en étais?
Eh bien que vous avez écrit dans les années 80.
Et que j'ai écrit un scénario également. qui a trouvé quand même un écho auprès d'un producteur. Et puis ça n'a pas marché parce que c'est très très difficile et qu'il faut avoir beaucoup de chance là si on n'a pas d'appui. Et donc c'est resté dans mes tiroirs pendant des années et des années. Et j'étais à Buenos Aires et un jour je discute avec un type de radio J et va savoir, il y avait une radio J, il y a toujours une radio J qui s'appelle pas radio J mais à Buenos Aires, et va savoir comment la conversation se met sur Eli Cohen. Et il a même projeté de faire une émission où je parlerai d'Eli Cohen. Il me dit, parce que vous êtes amoureuse d'Eli Cohen, il faut parler de cet amour. Bon, et émission qui ne s'est jamais faite, évidemment.
Mais est-ce que vous étiez amoureuse de De Niro et la photo de Eli Cohen lui ressemblant vous a donné envie d'écrire sur lui?
Ah non, pas du tout, j'ai jamais été amoureuse de De Niro.
Donc ni d'Eli Cohen. Oui. Mais alors la question qu'on peut tous se poser, mais comment tout ça ressort aujourd'hui en 2022? Est-ce que c'est une rencontre avec l'éditeur?
Et alors j'ai pas terminé, mais j'étais donc à Buenos Aires, on parle de ça, et je me dis, ah mais tiens, mais pourquoi je vais aller revoir un petit peu ce que j'ai écrit? Et puis j'ai rien trouvé. Là encore, c'était je ne sais pas, dans mes déménagements, toute la partie Eli Cohen avait disparu. Ce qui m'a profondément agacée. Et c'est là qu'a commencé à germer l'histoire, en me disant, mais dans le fond, il n'y a pas que l'histoire d'Eli Cohen, c'est parce que moi, en voulant faire un film, c'est quand même absurde et j'ai eu l'idée de mélanger les deux et de faire un montage avec un pied d'un côté et un pied de l'autre, comme ça, et d'avancer vers la fin.
Et alors, le livre aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ressorte comme ça, qu'il soit exhumé de vos papiers?
Ah ben, je l'ai écrit.
Oui, mais c'est une rencontre avec l'éditeur. Pourquoi pas avant? Pourquoi juste maintenant?
Et vous savez, quand on écrit un livre, on l'envoie à des éditeurs, et quand un éditeur vous répond, alors là, il se passe quelque chose. Mais sans ça, soit il vous répond que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale, soit que c'est très bien, mais que ça ne les intéresse pas, soit il ne vous répond pas du tout, d'ailleurs. C'est les trois quarts du temps, c'est ça. Et quand vous avez un éditeur qui vous répond, tout d'un coup, on se détend.
Et c'est jour de fête. Est-ce que les choses pourraient se passer à l'envers, finalement, que de ce livre en sorte un film?
Ah oui, mais je ne pense pas que je l'écrirais, alors. Là.
Il est sorti depuis quelques jours maintenant, depuis la fin août, hein, ça fait presque un mois. Qu'est-ce qu'on vous en dit?
Ben, je suis très agréablement surprise, parce que les gens aiment beaucoup ce mélange de sérieux, de même dramatique, avec le côté un peu loufoque et dynamique à la fois de l'écriture et de l'histoire.
En tout cas, c'est un joli roman, hein, qui fait du bien au moral et qu'on lit assez rapidement. Il y a une habitude dans cette émission, une question classique mais néanmoins difficile. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la Fréquence Juive de vous lire, qu'est-ce que vous leur diriez?
Qu'il n'y a pas assez de livres drôles en ce moment et que ça fait du bien.
Eh bien voilà, tout simplement. Alors, il faut vraiment rappeler, hein, la truculence d'une histoire à la fois pleine d'audace et ambitieuse, et puis vouloir faire interpréter le rôle principal d'un espion du Mossad par Robert De Niro au service d'une écriture drôle et emportée, eh bien, c'est pas des ingrédients qu'on trouve facilement dans un roman, en tout cas ce sont les vôtres. Et merci pour ce bon moment, j'espère que les auditrices et les auditeurs se rendront compte en vous écoutant qu'il faut lire votre livre. Hein. Robert De Niro, Le Mossad et moi, c'est votre actualité qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope, et puis on espère vous recevoir rapidement pour un autre ouvrage, qui sait.
Merci Sandrine.
Merci.